On a pu chanter dans nos cantiques, comme la grâce de Dieu nous accompagne tous les jours. Et puis, ce don de Dieu et l'immensité de son amour et de sa grâce. J'aimerais dire juste quelques mots sur cette grâce de Dieu. Et on peut commencer par lire au premier chapitre de l'évangile de Jean. C'est versets 14. Et la parole de Dieu devint chair et habita au milieu de nous, et nous vîmes sa gloire comme une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. Jean rend témoignage de lui et a crié, disant, « C'était celui-ci duquel je disais, celui qui vient après moi prend place avant moi, car il était avant moi. Car de sa plénitude, nous avons reçu et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. La grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. » Et puis, on peut lire dans l'Épître aux Éphésiens, on peut lire le chapitre 2 à partir du verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors même que nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec le Christ. Vous êtes sauvés par la grâce. Et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans le Christ Jésus, afin qu'il montrât dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce, dans sa bonté envers nous dans le Christ Jésus. Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. Il y a beaucoup de témoignages de la grâce de Dieu dans l'Ancien Testament. Elle n'était pas inexistante. La grâce, c'est la manifestation de l'immense amour de Dieu envers nous. Et Dieu est amour. Il l'a toujours été, il le sera toujours. Donc cette grâce a toujours été là. Mais la venue du Seigneur Jésus a été le début de cette habitation de la grâce parmi nous, au milieu de nous. La grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. Et cette grâce est absolue, totale. Vous êtes sauvés par la foi, par la grâce, c'est le don de Dieu. Je lisais récemment que en droit français, le président de la République a un droit de grâce. Mais ce que je ne savais pas et que j'ai appris récemment, c'est que cette grâce, ce droit de grâce, ne peut s'appliquer qu'après que tous les recours juridiques aient été finis. C'est seulement quand il n'y a plus aucune autre possibilité que la grâce peut s'appliquer. Et finalement, c'est exactement ce que nous dit la parole. Il n'y a pas de grâce s'il y a quelque chose qui vient de nous. Si nous pouvons faire quelque chose nous-mêmes, la grâce ne peut pas s'exprimer. La grâce est là, complète, magnifique, justement parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et c'est la compréhension de ce fait qu'il n'y ait pas d'autre solution qui nous fait comprendre cette grâce et cet amour absolu du Seigneur Jésus. Et cette grâce est indissociable de la vérité. On le voit dans ce premier chapitre de l'Évangile de Jean, la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. En aucun cas, la grâce finalement relativise le péché. On pourrait dire Dieu est plein de grâce, et donc finalement, il passe par-dessus les choses, et les péchés sont relatifs, puisque Dieu pardonne. C'est absolument pas ce que nous dit la parole. Pourquoi la grâce est entière, magnifique ? Parce que le péché ne peut pas être expié sans cette grâce. Et relativiser le péché, c'est relativiser la grâce. C'est relativiser ce don de Dieu. Cette grâce est donnée. Et c'est ce que nous dit ce passage des Éphésiens que nous avons lu. C'est le don de Dieu. Vous êtes sauvés par la grâce, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et le salut, c'est l'acceptation, justement, que cela ne peut pas venir de nous. Que nous avons reçu un don et que nous devons accepter ce don. Et finalement, on peut refuser cette grâce en pensant que nous n'en avons pas besoin, mais on peut aussi amoindrir un peu cette grâce en étant occupé de nous, en pensant à quel point nous sommes mauvais, en étant préoccupé par notre nature pécheresse. La grâce, c'est justement ne pas être occupé de nous, être occupé de Dieu, de son amour, de ce qu'il nous a donné. C'est un don. Et alors la parole nous présente quelques écueils que nous pouvons avoir, avec des degrés de gravité très différents, mais dans cette... Dans la façon dont nous vivons cette grâce. Et un passage qui m'a toujours frappé dans l'Épître aux Galates, voilà, Galates 5 au verset 4, mais on peut lire à partir du début du chapitre. Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant. Tenez-vous donc ferme et ne soyez pas de nouveau retenus sous un joug de servitude. Voici moi, Paul, je vous dis que vous êtes circoncis. Christ ne vous profitera de rien et je proteste de nouveau à tout homme circoncis qu'il est tenu d'accomplir toute la loi. Vous êtes séparés de tout le bénéfice qu'il y a dans le Christ, vous tous qui vous justifiez par la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Comment peut-on être déchu de la grâce ? Paul s'adresse là à des croyants. Et on sait que le sujet de cette épître aux Galates, c'est Paul qui s'adresse à des croyants qui reviennent sous la loi. Et ce chapitre 5 nous parle en particulier justement, de ces chrétiens qui ont été placés dans la liberté et qui ont été affranchis, mais qui reviennent sous un joug de servitude, qui se font des règles, qui imposent des règles aux autres. Et en faisant ça, l'apôtre Paul nous dit « Vous tous qui vous justifiez par la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Et c'est un danger qui nous concerne tous. Cette tendance à revenir sous la loi, à se faire des règles pour nous ou pour les autres, c'est un danger qui, de tout temps, a menacé les chrétiens. Ce n'est pas quelque chose qui est propre juste au début de la chrétienté et à ces croyants juifs qui avaient du mal à faire la différence entre la loi et la grâce. Non, c'est quelque chose qui nous concerne de tout temps et encore aujourd'hui. Pensons à ces mots « être déchu de la grâce ». C'est finalement oublier ce que le Seigneur nous a apporté par sa grâce. C'est oublier que le Seigneur nous a placés dans une nouvelle dimension. La grâce n'efface pas la loi, elle vient par-dessus. La grâce n'annule pas la loi, elle est là pour que les croyants comprennent qui est Dieu, quel est son cœur, et ne le suivent non plus par obligation ou pour obéir à des règles, mais le suivent en étant conscient que tout vient de lui. Un deuxième écueil qui est mentionné dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 12, on peut lire à partir du verset 14. « Poursuivez la paix avec tous et la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur, veillant de peur que quelqu'un ne manque de la grâce de Dieu, de peur que quelques racines d'amertume bourgeonnant en haut ne vous troublent et que par elles plusieurs ne soient souillés. » etc. « De peur que quelqu'un ne manque de la grâce de Dieu. » La grâce nous est présentée là comme étant aussi le modèle que nous devons suivre en tant que chrétiens. Cette grâce de Dieu qui s'est exprimée envers nous doit s'exprimer par nous aussi. Cette conscience de l'amour de Dieu doit s'exprimer en nous. Et on peut penser à cette parabole des talents, à cet ouvrier qui dit « Je sais que tu es un maître dur. » Il n'avait rien compris à ce qu'il y avait dans le cœur du maître. Et lui-même avait dans son attitude vis-à-vis des autres ouvriers cette amertume, cette rancœur, parce qu'il ne connaissait pas la grâce de Dieu, la grâce du maître. Quand nous connaissons la grâce de Dieu, quand nous sommes conscients de la façon dont elle s'est exprimée envers chacun d'entre nous, alors comment pouvons-nous ne pas exprimer cette grâce autour de nous, auprès des autres? Comment pouvons-nous avoir ces racines d'amertume, de jalousie, d'envie, de reproche, alors que la grâce de Dieu s'est exprimée envers nous? Manquer de la grâce de Dieu, je pense que c'est un message qu'on peut chacun essayer de se rappeler chaque jour. C'est une prière que nous pouvons faire de ne pas manquer de cette grâce, Non pas que la grâce de Dieu, que les ressources de la grâce de Dieu manquent, mais qu'en nous, cette grâce s'exprime. Et après, il y a un autre aspect qui nous est mentionné dans un contexte beaucoup plus dur encore dans l'épître à Tite, de Tite, qui est tourner la grâce en dissolution. Non, c'est pas à Tite, pardon, c'est Jude. Oui, c'est ça, c'est Jude. Jude, au verset 4, on peut le lire à partir du verset 3, « Bien-aimé, quand j'usais de toute diligence pour vous écrire de notre commun salut, je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été une fois enseignée aux saints. Car certains hommes se sont glissés parmi les fidèles, inscrits jadis à l'avance pour ce jugement, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Alors il ne s'agit pas là de croyants, hein. Le passage est très clair là-dessus. Mais on a un autre aspect qui ressemble beaucoup à ça, même si ce mot de tourner la grâce en dissolution n'est pas cité, et si l'apôtre utilise plutôt ça par contraste, mais dans l'Épître aux Romains au chapitre 6, le chapitre 6 commence par « Que dirions-nous donc ? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ?» Voilà, donc c'est plus une expression rhétorique dans ce sens-là, mais c'est bien la même chose dont il s'agit. Tourner la grâce en dissolution. C'est finalement considérer que Dieu est plein de grâce, et tellement plein de grâce, que nous pouvons faire n'importe quoi. Et ça, c'est un message qui est couramment répandu dans la chrétienté. Parce que ce message de Dieu est amour, il est très simple à entendre, très facile pour tout le monde. Et peu de gens peuvent finalement le combattre ou le contester. Oui, Dieu est amour. Mais n'oublions pas, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Les deux ne sont pas dissociables. Et dire que utiliser le prétexte que Dieu est plein de grâce pour oublier que Dieu est vérité, eh bien, c'est tourner la grâce de Dieu en dissolution. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement grave et qui, à l'extrême qui est présenté dans l'Épître Jude, montre que ces personnes-là ne sont pas croyantes. Mais comme croyant, c'est aussi un danger auquel nous devons être attentifs. De toujours avoir cette conscience de la vérité, cette conscience de la sainteté de Dieu, en même temps que cette conscience de son amour et de sa grâce. Et peut-être pour finir, je pensais à deux personne de la Bible qui nous parle tout particulièrement de la grâce de Dieu, et en tout cas qui l'ont expérimenté eux-mêmes tout particulièrement. Et je vais lire quelques passages qui peuvent nous encourager dans notre vie chrétienne. Alors, de l'apôtre Paul, dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12 au verset 7, et afin que je ne m'enorgueillisse pas à cause de l'extraordinaire des révélations, il m'a été donné une écharde pour la chair, un ange de Satan pour me souffleter afin que je ne m'enorgueillisse pas. À ce sujet, j'ai supplié trois fois le Seigneur afin qu'il se retirât de moi. Pardon, afin qu'elle se retirât de moi, mon écharde. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. Ma grâce te suffit. Il y avait cette semaine dans le calendrier encore ce rappel de cette révélation sur le chemin de Damas. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui, plus que Paul, pouvait avoir conscience de la grâce de Dieu ? Lui qui avait persécuté l'assemblée, tué des croyants. Je pense que cette conscience de la grâce de Dieu ne l'a jamais quittée. Et pourtant, lui aussi pouvait être tenté de ne pas se suffire de cette grâce. Lui aussi pouvait compter sur lui-même, s'appuyer sur les extraordinaires dons qu'il avait reçus, sur les connaissances qu'il avait, sur le charisme certainement qu'il avait. Il pouvait s'appuyer là-dessus. Et tout ça était vrai. Mais le Seigneur veille à ça. On ne sait pas ce que c'est que cette écharde qu'il avait, c'est un peu mystérieux, on a parlé d'un problème d'œil peut-être, de vue, mais en tout cas, Dieu le maintient dans cet état de conscience de cette grâce, pour que chaque jour, il se souvienne que la grâce de Dieu doit lui suffire. Non pas pour que se lamenter sur sa condition, sur cette écharde, mais pour être tourné vers Christ plutôt que vers lui-même. Pour être conscient que tout vient de lui. Tout don parfait vient de notre Seigneur. Pour être conscient que rien de tous ces dons naturels qu'il avait ne devait remplacer cette grâce de Dieu, cette pleine grâce de Dieu. Et on peut penser aussi à l'apôtre Pierre. Lui aussi, comme il devait être conscient de la grâce de Dieu. Lui qui avait vécu tout près du Seigneur, lui qui l'avait renié, lui qui avait pleuré amèrement et que le Seigneur avait relevé. On peut lire dans la première épître de Pierre, chapitre 2, un verset qu'on connaît tous, verset 3. « Si toutefois vous avez goûté que le Seigneur est bon, duquel vous approchant comme d'une pierre vivante, rejetée par les hommes et choisie et précieuse auprès de Dieu, vous-même aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle, une sanctificature, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Si toutefois vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Et après, au chapitre 5, la conclusion de cet épître, au verset 10, « Mais le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ Jésus, lorsque vous aurez souffert un peu de temps, vous rendra lui-même accompli, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur un fondement inébranlable, À lui la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Je vous écris brièvement par Sylvain, qui est l'un des frères fidèles, comme je le pense, vous exhortant et attestant que cette grâce dans laquelle vous êtes est la vraie grâce de Dieu. Chercher un autre passage où il parle de croître dans la connaissance et la grâce. Mais en tout cas, l'apôtre Pierre, dans tous ses... Merci, de Pierre 3, verset 18. Voilà, exactement, c'est la conclusion de la deuxième épître, merci beaucoup. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Croissez dans la grâce et la connaissance. L'apôtre Pierre, lui aussi, avait personnellement expérimenté cette grâce de Dieu dans sa vie. Et il nous encourage dans cet épître à goûter que le Seigneur est bon, à vivre cette grâce dans laquelle vous êtes, pas cette grâce dans laquelle vous pouvez être, pas cette grâce dans laquelle vous avez été lorsque vous avez été sauvés. Non, cette grâce, cette vraie grâce de Dieu dans laquelle vous êtes. Ce que nous dit Pierre là, c'est que cette expérience de la grâce de Dieu, c'est une expérience à vivre et à revivre tous les jours. Goûter, apprécier, contempler, considérer tous les aspects de cette grâce de Dieu. Et le passage qu'on vient de lire aussi à la fin de la deuxième épître associe la grâce et la connaissance. De même que au début de l'évangile de Jean, la grâce et la vérité viennent ensemble, ça c'est l'aspect de Dieu, pour nous, la correspondance, je dirais, c'est de goûter cette grâce et de croître dans la connaissance. Les deux, là aussi, sont indissociables. Nous ne pouvons pas expérimenter et goûter la grâce de Dieu au quotidien et la refléter dans notre vie si nous ne croissons pas aussi dans la connaissance du Seigneur. C'est en le connaissant mieux, en vivant près de lui, avec lui, en le cherchant à le connaître dans sa parole, que nous connaîtrons davantage cette grâce, que nous comprendrons cette grâce, que nous goûterons cet amour de Dieu et qui s'exprimera dans nos vies. On dit toujours que la vie chrétienne et la foi, ce n'est pas une affaire de connaissance, ce n'est pas une affaire intellectuelle. Personne ne sera jamais sauvé parce qu'il comprend théoriquement que Christ est mort sur la croix pour les pécheurs. Le salut, c'est le comprendre pour soi. C'est le vivre soi-même. C'est vivre cette grâce. Et cette connaissance dont nous parlons, ce n'est pas une connaissance intellectuelle. C'est une connaissance intime, une connaissance d'une personne. La vie chrétienne et la foi, et grandir dans la foi, c'est grandir dans la connaissance de la personne de notre Seigneur Jésus. Alors c'est cette prière que nous pouvons faire ensemble avec l'apôtre Pierre, de croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur.
Juste deux ou trois remarques sur la grâce de Dieu. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 16, verset 23. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous savons qu'il y avait beaucoup de choses qui laissaient à désirer à Corinthe. Et le souhait de l'apôtre Paul, c'est que cette assemblée soit rétablie, que les choses qui laissaient à désirer en son sein soient jugées. Et il termine cette première épître par cette demande, cette exhortation, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, car pour être rétabli quand on est défaillant, en assemblée en particulier, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, soit avec vous, non pas seulement pour l'un ou l'autre dans cette assemblée, mais pour tous. Dans la deuxième épître à Corinthiens, au dernier chapitre, au verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Il avait eu un travail qui avait été commencé dans l'assemblée qui est à Corinthe, mais c'était un travail qui s'était opéré partiellement. Et donc, dans la deuxième épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul insiste à plusieurs reprises pour que ce rétablissement, cette restauration de l'assemblée soit complète. Et nous voyons que cette assemblée avait besoin de la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec eux tous, afin d'être rétablis. Encore dans la deuxième épître à Timothée. Dans la deuxième épître à Timothée, nous savons que la deuxième épître à Timothée nous parle de l'état de ruine de l'assemblée et sa décadence. Et les croyants qui désirent être fidèles dans une telle chose, eh bien, nous voyons que à la fin du chapitre 4, verset 22, il est dit « Le Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous tous. » C'est-à-dire que quand nous traversons des épreuves, des difficultés, et nous connaissons aussi notre environnement, l'environnement de la chrétienté aujourd'hui, et nous savons que les choses s'aggravent, eh bien, nous voyons que nous avons besoin que le Seigneur nous maintienne dans notre esprit. Verset 22, « Le Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit. » C'est-à-dire, nous pouvons nous décourager, nous pouvons baisser les bras. Eh bien, le dernier souhait de l'apôtre Paul dans cette deuxième épître à Timothée, c'est que le Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit, chacun de nous, afin de ne pas nous décourager, de ne pas baisser les bras, mais compter sur Dieu et marcher par la foi, regarder à lui. Et nous avons besoin encore que la grâce soit avec vous. Nous avons besoin de cette plénitude de la grâce de Dieu pour nous accompagner dans de telles circonstances.